En Malaisie, pays profondément religieux et plutôt conservateur, les femmes trans sont très stigmatisées. Le marché du travail en particulier leur est difficilement accessible et beaucoup en sont réduites à se prostituer. Elles font donc partie des personnes les plus à risque de contracter le VIH. Tara Schlegel a rencontré Anou, c'est l'une des figures clés de la lutte contre le VIH en Malaisie et du combat pour les droits des femmes transgenres. Elle s'y consacre depuis 2006. Anou est responsable des relations internationales au sein du MAC, l'organisation qui redistribue l'argent du Fonds mondial.
Salut, je m'appelle Anou, j'ai 48 ans et je vis en Malaisie.
Est-ce que vous pourriez vous présenter comme une femme trans ?
Ok, je suis une femme trans et je suis fière de l'être. Depuis l'âge de 3 ans, je suis consciente d'être une femme. Quand j'étais petite, je voyais des hommes. Cela me rendait timide. Et puis j'étais moustillée quand je voyais des garçons, comme les acteurs de cinéma. Mais quand je suis née, j'ai su que ce n'était pas mon corps. Je me sentais comme une femme, prisonnière dans un corps d'homme. Donc après un certain temps, j'ai entamé une transition de genre. J'avais une vingtaine d'années. En Malaisie, on a des représentants de chaque religion, musulmanes, hindous, bouddhistes, chrétiennes. Il y en a tellement. Mais la plus puissante, c'est la religion islamique, puisque notre pays applique à la fois la loi civile et la loi islamique, la charia. Mais ayant dit ceci, on peut aussi défier la loi. Et dans les années 2000, des trans ont gagné un procès. Elles avaient été arrêtées pendant qu'elles organisaient un mariage, c'est une de leurs activités traditionnelles, et elles ont été arrêtées pour s'être travesties en femmes. Elles se sont battues et finalement elles ont gagné. Mais toutes les trans ne peuvent pas intenter un procès. Ça demande de l'argent, du temps. Et comme vous savez, les trans, si elles ne travaillent pas, elles ne peuvent pas survivre. Donc évidemment, la plupart d'entre elles se prostituent. Et quand on est déféré devant les autorités religieuses, il faut avouer. Tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas condamné, mais ils nous menacent. Alors certaines avouent. Après, elles payent une amende et elles sont convoquées par les autorités religieuses pour des entretiens, une fois par semaine. Évidemment. C'est pour qu'elles prennent conscience des règles de la société. En fait, notre genre n'est pas reconnu légalement. C'est pour ça qu'on subit tout cela et qu'on a tous ces défis à relever dès le premier jour de notre vie. Les abus et tout ça. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les trans ne se soucient pas beaucoup du VIH ni des maladies sexuellement transmissibles, parce que le reste leur semble la priorité. Vivre une vie d'être humain, c'est déjà un challenge. Les besoins élémentaires, l'éducation, le logement, le travail. Si on n'a pas tout ça, pourquoi penser à sa santé? Alors elles deviennent travailleuses du sexe. Même celles qui ont des diplômes, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des postes à la hauteur de leur formation. Parfois, certaines sont convoquées pour des entretiens d'embauche, mais quand les gens voient leur carte d'identité masculine et après leur apparence, ils sont confus et les rejettent. Et puis il y a même la question des toilettes séparées, hommes-femmes, dans une entreprise. C'est toujours un problème. Et puis enfin, il y a aussi cette envie de changer de sexe. C'est très important. Elles veulent être belles, elles souhaitent se transformer. Et moi-même, comme membre de cette communauté, je ne me suis pas préoccupée du VIH avant 2006. C'est mon travail de militante qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que c'était simple, c'est gratuit, on se fait tester facilement, et ainsi on peut vivre une vie heureuse.
Le risque de transmission du VIH est également important parmi les consommateurs de drogue, dont nous parlerons dans le prochain épisode.